Bonsoir et merci d'avoir attendu, merci d'être là. Je vais vous expliquer pourquoi ce livre. Donc, mon parcours est tout à fait en dehors de l'huître. Je suis éditeur de littérature et de poésie et j'ai une attirance et un goût personnel pour tout ce qui touche aux questions de l'alimentation, de la gastronomie, pas en termes de recettes de cuisine, mais en termes de création. C'est-à-dire que se posent pour moi les mêmes questions que se posent dans les livres que je publie avec des poètes et des écrivains. Qu'est-ce que c'est que la création? Quel est ce geste et qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? J'ai publié comme ça donc, des livres qui répondent au parcours de Pierre Gagnaire et d'autres plus jeunes cuisiniers, Bertrand Grébaud, David Toutain. Et des petits livres qui sont autour du goût, des petits essais ou textes littéraires qui répondent aux questions du goût, dont on ne trouve pas beaucoup de réponses et de littérature. Donc c'est des cartes blanches données à des auteurs. Par exemple, La mer, l'acide, l'astringent, il va bientôt être publié, Le fade, écrit par une écrivain poète japonaise qui va nous parler du fade. Voilà. Donc en faisant ce parcours-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des aliments dont on parlait très peu, notamment l'huître, qui m'est chère puisque je m'appelle Floïc et c'est le nom de mon mari, mais je suis depuis toujours en Bretagne, en vacances, à l'endroit où on s'est rencontrés, et donc dans le sud Morbihan. Et ces huîtres ont parcouru, moi je suis parisienne de plusieurs générations, on a toujours mangé des huîtres dans ma famille en achetant à Paris, et puis même l'été on allait en pêcher. Donc on parlera des huîtres justement qu'on peut déguster l'été si on le veut. Et j'ai entendu parler il y a peut-être 5-6 ans, comme vous-même, dans la presse, par différents articles, de la maladie de l'huître et de l'huître triploïde. J'avais jamais entendu ce nom-là et je me suis dit qu'est-ce que c'est que l'huître triploïde. J'ai découvert qu'en fait il y avait des chercheurs, pour pas dire des savants, des chercheurs qui avaient tenté de mettre en place une huître qui répondait à la consommation, à l'attente des consommateurs et des producteurs, qui pouvait être consommée toute l'année et donc élevée suivant des règles de laboratoire avec des écloseries et qui n'étaient pas des huîtres naturelles. À partir de cette question, je me suis dit qu'il faut que je trouve toutes les réponses et que je connaisse qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'huître. Donc j'ai fait ce que vous trouverez dans le livre, si vous le feuilletez ou si vous l'achetez, une étude un peu sur la biologie de l'huître. Donc vous la connaissez peut-être. L'huître, elle vit en pleine mer. C'est un des rares aliments que l'on peut manger vivant et qu'on peut pêcher aujourd'hui tout à fait librement. Et qui est même en voie d'extension dans l'huître que l'on trouve actuellement sur les côtes françaises. Il y a les huîtres plates, qui sont des huîtres essentiellement en Bretagne et en Bretagne Nord, très rares, qui commencent à revenir à un état naturel. Elles avaient disparu dans les années 70 avec une maladie. Les maladies sont assez récurrentes chez les huîtres. Il y en a eu une grave qui a atteint les Portugaises dans les années 70 aussi. Les huîtres portugaises étaient des huîtres qui avaient été importées du Portugal parce que dans les années, c'était au 19e siècle, Les ostréiculteurs avaient beaucoup touché les bancs naturels, puisque les huîtres sont des huîtres donc, qui poussent dans la nature, elles s'accrochent sur un support, et l'ostréiculture, qui n'était pas encore de l'ostréiculture, mais plutôt de la cueillette, et qui est devenue de l'ostréiculture en ramassant des huîtres et en les mettant dans des parcs, notamment Marais-Noléron ou dans les zones de l'Aquitaine, les bancs naturels, donc pêchés, avaient commencé à disparaître. Et on s'est dit, peut-être on peut faire venir des huîtres d'ailleurs. Et certains ostréiculteurs faisaient venir des huîtres du Portugal, qui étaient très bonnes et qui étaient commercialisées en France. Et un des bateaux qui livrait des huîtres en Angleterre, je crois, s'est échoué, vous devez connaître l'histoire, non loin de Bordeaux, après avoir être rentré en Gironde pour s'abriter d'une tempête. Il s'est abrité, il est resté plusieurs jours et la cargaison d'huîtres qu'il avait a commencé à dépérir et il les a balancés par-dessus bord et il a continué ou il est retourné au Portugal. Et quelques mois après, on a trouvé des huîtres qui s'étaient parfaitement acclimatées et qui étaient donc ces huîtres portugaises qu'on a dit très résistantes, très rapides en croissance, beaucoup plus qu'étaient les plates ou les huîtres qui étaient à ce moment-là qu'on pouvait trouver en France. Et donc, s'est installée l'ostréiculture, qui est devenue vraiment une profession stable avec des nouveaux emplacements. Beaucoup de femmes de marins avaient cette profession-là sur la côte. Et donc, c'était les huîtres portugaises qui sont devenues celles que vous avez peut-être connues et mangées avant les années 70. Dans les années 70, donc une maladie, un virus ou une bactérie, ces huîtres portugaises ont disparu et on a importé du Japon et des zones du Canada ou Amérique du Nord, des huîtres qui sont des huîtres, cette fois-ci japonaises, qui ne sont pas des plates, mais qui sont des huîtres creuses, donc qui se sont très bien adaptées et qui ont remplacé les portugaises. Aujourd'hui, on est donc dans une situation où on mange des huîtres qui ne sont pas des huîtres naturellement nées sur nos rivages, sauf les plates en Bretagne. Et ça, j'ai ce privilège de pouvoir en manger quand j'y étais il y a 3 jours. Et je peux vous dire qu'elles étaient très bonnes et très bretonnes. Et ces huîtres donc sont cultivées, élevées par des ostréiculteurs, suivant des méthodes qui sont restées traditionnelles, culturelles pendant des années, et qui, depuis la fin des années 90, ont dérivé, comme on a connu en agriculture après la guerre, dans une idée de productivité, de rendement et d'enrichissement. Donc, les producteurs d'huîtres ont quitté leurs petites exploitations, ont acheté ont loué, parce que c'était en location, des espaces où élever leurs huîtres. Donc, suivant différentes techniques, on pourra en parler. Et ces huîtres-là ont conquis un marché français et international. Je crois qu'il y a quelques années, début 2000, c'était 140 000 tonnes par an. On est arrivé aujourd'hui à 80 000 tonnes par an qui ne sont exportées, qui ne sont pas toutes vendues en France, donc en Europe et assez loin. Et donc ces huîtres sont des huîtres naturelles. Donc vous connaissez, je pense, le cycle de l'huître. L'huître, c'est un coquillage mollusque bivalve qui a donc deux coquilles, qui abrite à l'intérieur une huître qui a comme un animal très bien constitué, un cœur, des organes de digestion, des organes de reproduction. Et puis qui filtre de l'eau, qui filtre beaucoup d'eau et qui se nourrit de phytoplancton, d'énormément de plancton. Et ce plancton, qui est la raison même de la qualité de l'eau de mer, est aussi la raison même de la qualité et de la survie des huîtres. On a connu des incidents et des accidents, notamment dans le bassin d'Arcachon, il y a quelques années, où les huîtres, les petits bébés huîtres qui naissent sur place, qu'on appelle le naissin, ne naissaient pas normalement et on s'est rendu compte qu'il y avait des intoxications dues aux peintures qui sont des peintures qu'on mettait sous-marines, sous les coques des bateaux qui sont constituées d'un poison terrible qui a été depuis absolument interdit. Donc le principe, c'est que l'huître creuse est une huître hermaphrodite. Elle est tantôt mâle, tantôt femelle. Dans une même saison, elle va être femelle, mettons, ou mâle. Cette huître, à partir du moment où l'eau est autour de 10 degrés, et curieusement, en ce moment, là en Bretagne où j'étais, avec le temps doux de cette année, l'huître développe les gonades, qui sont les organes qui vont produire après les différentes gamètes mâles ou femelles. Et quand elle est comme ça, elle est assez charnue. On dit qu'elle est grasse, mais ce qui n'est pas vrai, parce que ce n'est pas du tout des matières grasses, mais c'est plutôt du glucose. Et ce sont des huîtres qui deviennent comme ça de plus en plus mûres, prêtes à pondre. Quand l'eau fait plus de 16 degrés, à ce moment-là, elle libère ses gamètes, l'huître plate, creuse, libère les gamètes dans l'eau de mer. Et les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent et forment une petite larve qui devient au bout de quelques temps, une quinzaine de jours, fixe avec un pied. Et cette larve, elle se fixe sur tout ce qu'elle peut trouver, des rochers. En Bretagne, dans l'endroit où je suis, les rochers sont complètement recouverts d'huîtres qui ont remplacé le goémon et les moules. C'est ce qu'on dit maintenant une espèce invasive. Donc ça va jusqu'en Bretagne, dans les pays du Nord, même en Suède, ils ont parlé d'éradiquer par des moyens de drague, je ne sais pas quoi, l'invasion des huîtres creuses. Et donc, une fois que ces huîtres sont nées, il faut les recueillir, si on veut faire de l'ostréiculture, sur des différents matériaux. Donc, ça dépend des régions. Il y a des régions où ce sont des tubes où les bébés huîtres se déposent. D'autres, ce sont dans le bassin d'Arcachon, par exemple, ce sont des tuiles comme il y a sur les toits qui sont chaulées, qui sont posées dans cet espace-là. On recueille donc à la fin de l'été toutes ces, tous ces petits bébés huîtres qui sont là et on les ramasse. Et l'année, 6 mois après, quand elles sont devenues un petit peu plus grandes, on les gratte et on les met dans des poches suivant les années. Donc l'huître que vous consommez, l'huître creuse normale, elle est consommée au bout de 3 ans d'élevage, 3-4 ans, qui fait une huître du commerce qu'on trouve couramment, qui est à peu près une huître numéro 3. Et donc ces huîtres-là, elles sont mises dans des poches et remuées pour qu'elles gardent leur forme, qu'elles aient à se nourrir, etc. Et donc c'est le principe de l'ostréiculture. Seulement, justement, avec ce développement, cette idée que ces huîtres, on pouvait en faire plus et elles pouvaient se manger toute l'année, alors qu'en principe, la période de fécondation, ça va à peu près, mais quand elles ont vraiment le moment où elles vont lâcher les gamètes, c'est ce qu'on dit, les huîtres sont laiteuses, elles ne sont pas très appétissantes, il y a des gens qui aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas. Donc c'est un obstacle quand même pour la vente. Et l'État français, puisque c'est l'équivalent de l'INRA que vous connaissez en agriculture, mais ça c'est l'IFREMER, a eu l'idée de mettre en place un brevet parallèlement aux États-Unis dans les années 95, quelque chose comme ça, qui permettait de faire ces huîtres donc triploïdes en manipulant chimiquement des huîtres de façon à ce qu'elles expulsent qu'une partie de leur noyau et qu'au lieu d'être diploïdes, c'est-à-dire deux paires de chromosomes comme dans tous les êtres vivants, comme les humains et les autres animaux, elles devenaient triploïdes, c'est-à-dire qu'elles avaient trois noyaux, trois paires de chromosomes, et à ce moment-là, elles étaient stériles. Stériles, impossible de les faire se reproduire, donc ne se reproduisant pas, elles passaient la période de l'été dans le même état que toute l'année, et en plus, cette sélection, puisqu'en fait, ce sont des huîtres qui sont sélectionnées en laboratoire suivant des critères de qualité, de forme de coquille, de résistance à certaines maladies, paraît-il, avec des familles génétiquement surveillées. Ces huîtres-là, on les consomme l'été et elles grandissent en 2 ans au lieu de 3 à 4 ans pour les autres. Donc les ostréiculteurs se sont trouvés devant cette manne possible de s'enrichir, de faire du commerce l'été le long des côtes avec les touristes et de pouvoir faire déguster des huîtres à ce moment-là. Et ça a été un développement énorme de l'ostréiculture, avec des surfaces qui dépassaient les normes, des quantités dans les poches qui dépassaient aussi les normes. Il y a une bactérie qui est arrivée, un virus qui est arrivé, et ça a créé une maladie très grave qui, dans les années 2008, a décimé pratiquement 90% des huîtres petites. En 2008, c'était absolument énorme. Il y a des ostréiculteurs qui ont tout perdu. Donc dans l'ostréiculture, comme dans la culture, comme dans l'agriculture, on perd, on a des subventions. Donc on recommence autre chose, on en achète plus en se disant si on va en perdre, on va en avoir quand même en plus. Et on est dans une espèce de cavalcade comme ça qui perd la notion de qu'est-ce que c'est que la nature et qu'est-ce que c'est que la vraie façon d'élever les huîtres. Donc quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit je vais faire une enquête comme un journaliste avec ma curiosité, ma naïveté et mon la façon inconnue que j'avais de rencontrer toutes ces questions-là. Et j'ai rencontré des ostréiculteurs, un premier qui est en Normandie, qui est responsable syndical des ostréiculteurs de sa région, qui m'a vraiment tout expliqué, et surtout tout expliqué ce que je viens un petit peu de vous raconter sur la qualité qu'on peut trouver des huîtres. Rien n'est étiqueté, on a des huîtres naturelles qui sont nées en mer, élevées en mer. Et on a des huîtres qui ne sont pas naturelles, qui sont nées en écloserie de sélection, qui peuvent être d'ailleurs en écloserie. Ils font aussi des huîtres qui ne sont pas triploïdes, qui peuvent être diploïdes, normales, ou triploïdes. Et ces huîtres-là sont commercialisées sous l'étiquette Marais-Oléron, Isigny, Cancale. Et on ne sait pas du tout si elles sont naturelles ou pas naturelles. Et de l'autre côté, donc, vous avez ces ostréiculteurs qui sont dans une sorte de fièvre de conquête d'un marché international. Il y en a certains, et je peux les citer parce que c'est dans le livre et ils ont accepté de répondre à mes questions. C'est les huîtres Gilardeau qui sont les plus typiques, des huîtres qui sont absolument excellentes, qui sont charnues, qui sont régulières, qui ont des belles formes de coquilles, exportées dans le monde entier, y compris en Chine, Et ils se sont rendus compte qu'en Chine, ils avaient copié la bourriche venant de France, envoyée par Gilles Arthaud, rajouté quelques palmes ou quelque chose un peu chinoise, mais que les huîtres étaient en fait des huîtres élevées en Chine, fabriquées en Chine, n'étaient pas du tout des Gilles Arthaud. Et pour se défendre de ça, ils ont décidé de tatouer au laser un G, comme Gilles Arthaud, sur les coquilles. Donc ces huîtres-là, elles sont dans le commerce, on les trouve en région parisienne, on les trouve dans les grandes brasseries. Elles valent à Paris 29,50 euros le kilo, alors que la douzaine, alors que les bonnes huîtres valent autour de 15 euros enfin, au maximum. Et ces huîtres-là, on ne sait pas ce qu'elles sont. Donc quand on pose la question aux ostréiculteurs, ils répondent. Et ils disent effectivement, ce sont des huîtres triploïdes. Mais bon, ils ne s'étendent pas sur la question. Et de l'autre côté, vous avez des ostréiculteurs qui ont voulu conserver les méthodes culturales qu'ils ont entendues de leurs ancêtres, des anciens, ou qu'ils ont apprises, parce qu'il y a des gens qui viennent, comme dans les métiers maintenant, qui ont une passion, comme les maraîchers ou les ostréiculteurs, qui ont décidé, après avoir fait des études, par exemple, d'aller dans l'ostréiculture. Et à ce moment-là, ils reprennent des méthodes anciennes et se posent la question, la mer, la nature, elle est comme ça, elle nous donne des biens infinis, on la respecte et on travaille en respectant la nature, avec des conditions de travail qui sont très dures, puisque ce sont des métiers physiquement très durs, c'est toujours dans l'humidité, dans le froid, etc., et des poids très lourds à porter. Mais on a envie de faire un métier qu'on aime et de faire un produit qu'on aime, dont on est fier. Et c'est une question d'éthique et une question d'engagement personnel sur la façon dont on peut envisager l'ostréiculture sous une forme durable, en tenant pour compte, justement, dans des associations, la qualité de l'eau des bassins versants qui vont dans les estuaires, en tenant compte aussi de la qualité du plancton, en essayant de se poser des questions. Donc, on a aujourd'hui cette dualité. Il y a des ostréiculteurs que je dirais industriels qui travaillent suivant des méthodes qui sont récentes et qui sont dans l'idée de rentabilité et d'argent. Malheureusement, avec la crise, ils ont compris aussi que c'était peut-être pas que ça. Et pour certains, c'est dans le livre, certains scientifiques pensent que la crise de la mortalité importante de ces jeunes huîtres n'était pas sans rapport avec une fragilité des huîtres triploïdes qui étaient très nombreuses et qui étaient sur le marché à ce moment-là, enfin dans les parcs, en grande concentration. À partir du moment où vous avez un élevage domestique, la concentration concentre les maladies, les déchets, etc. Et ce n'est plus un milieu naturel. Donc quand on joue avec le milieu naturel, il y a forcément des conséquences. Et cette mortalité très importante, elle a été avec les jeunes huîtres dans les années 2008. Et puis après, elle a été avec les huîtres adultes qui étaient arrivées à maturité. Et on s'est rendu compte en faisant des essais, des recherches, qu'il y avait quand même un rapport aussi avec le fait qu'on ne manipule pas impunément la nature. Il y a toujours un retour de bâton. Alors l'huître, ça se retourne en 3 ans, on sait à peu près situer les choses. On ne l'a pas situé de la même façon avec l'agriculture, où on est en train de perdre des sols avec 50 ans de gâchis d'agriculture en profondeur. On a perdu toute la qualité des sols, la variété, la diversité, les animaux, etc. Et là, l'huître, c'est heureusement une sentinelle. D'ailleurs, un des ostréiculteurs qui est dans le livre, Jean-Noël Yvon, qui est en Bretagne, dans la rivière d'Étel, a son huître qui a été choisie comme sentinelle slow food, c'est-à-dire que c'est garant de la qualité d'une production qui reste artisanale, qui tient compte de l'environnement et qui est aussi la sentinelle. Sentinelle, ça veut dire qu'une huître qui souffre, c'est la nature a souffert autour. Lui, l'eau n'est pas normale, il n'y a plus de plancton, ou il y a des produits toxiques, ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a cette hyperconcentration d'autres huîtres et ce développement absolument dément de plus d'huîtres qu'il en faut dans les poches, plus de poches qu'il en faut au mètre carré ou au kilomètre carré. Et voilà ce qui est arrivé. Donc cette enquête, je l'ai faite uniquement en rencontrant des hommes. Et des hommes, comme je vous disais, donc Gilles Arthaud qui m'a expliqué quel est leur parcours, c'est un parcours d'industriel, c'est des gens qui veulent faire du profit, qui ont du marketing et qui produisent et qui exportent. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans la production en restant comme ça, malheureusement piégés souvent par les ventes avec les grandes surfaces ou les choses comme ça, où ils produisent et après, bon, ils sont un petit peu otages de toute la grande distribution. Et puis, il existe, j'en ai rencontré, donc ça, c'est ce qui m'a passionné, les scientifiques qui m'ont expliqué leurs propos, pourquoi ils ont été comme ça, un grand écloseur qui est très connu, qui est un ingénieur agronome, qui m'a expliqué son utopie et son engagement personnel pour la domestication de l'huître, comme on a arrangé génétiquement avec les années. On a fait des chevaux sauvages, on a fait des chevaux de course, des sangliers, on en a fait des cochons. Lui, il dit, l'huître, bien qu'elle pousse naturellement dans la mer et qu'elle a ramassé, il faut l'élever. Si on ne l'élève pas dans les conditions préservées, en faisant une sélection génétique en laboratoire et en ne mettant pas des huîtres triées, résistantes, avec certaines qualités, on va détruire les huîtres et la nature ne doit pas exister, on ne doit avoir que celle-là. Donc ça, c'est dans le livre aussi, c'est une parole complètement révolutionnaire, mais qui existe dans les milieux de l'INRA, avec l'agriculture, qui existe, comme vous le savez, avec les OGM et toutes ces compagnies. Je suis en train de faire le même livre, mais sur les semences. Ben là, je peux vous dire que c'est pas beau. Et c'est une bataille. Et donc, à côté de tous ces gens-là, j'ai rencontré sur le terrain des ostréiculteurs, qu'on peut dire artisans, qui ont une volonté de continuer leur travail de façon, comme les anciens, de façon appliquée, en aimant leur travail, en aimant leurs huîtres et en sachant que les huîtres, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles sont variables d'un moment à l'autre de la saison. On peut les manger l'été si on les aime l'été. L'huître, après une tempête ou après de la pluie, elle n'a pas le même goût 15 jours avant ou 15 jours après. Et c'est ça qu'il faut que le public comprenne. Alors, le public ne peut pas deviner quelle est l'huître qu'il va acheter, si c'est une huître traditionnelle née en mer ou une huître qui a été exploitée en écloserie. Il y a un combat qui est mené par les ostréiculteurs, soutenu par un sénateur qui s'appelle Joël Labbé, qui est un sénateur écologiste du Morbihan, qui a fait une demande d'un dépôt d'amendement qui n'a pas été passé l'année dernière, mais qui a de fortes chances peut-être de progresser, sur l'étiquetage, comme vous avez quand vous avez chez le poissonnier, vous avez une dorade de pêche et une dorade d'élevage. Donc on ne demande pas de mettre triploïde, on demande huître traditionnelle née en mer. C'est tout. Les autres, ben, on fait ce qu'on veut. Alors pour l'instant, la seule façon, c'est de poser la question à votre poissonnier ou au marché, à l'ostréiculteur auquel vous allez acheter, ou sur la côte. L'été, évidemment que c'est un peu suspect quand vous voyez des restaurants qui s'ouvrent et qui offrent des huîtres comme ça à tout va. Pendant l'été, c'est certainement des huîtres qui sont des huîtres triploïdes. Donc ces ostréiculteurs traditionnels, moi, ce que j'ai aimé, ce que j'aimerais porter comme parole, en ayant ce plaisir d'avoir découvert le livre, c'est qu'il existe des gens passionnés qui ont des produits à nous faire découvrir. J'ai rencontré un écaillier, qui est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui m'a fait comprendre aussi que dans certains bars à huîtres, comme son bar à huîtres à lui, où il fait venir de plusieurs endroits, c'est tout à fait étonnant, d'ostréiculteurs que j'ai rencontrés, des huîtres variées. Et on peut aller dans un bar à huîtres, ou même ça serait bien dans un restaurant, et consommer non pas 12 huîtres, comme ça, avec un label Marais-Noléron ou Utah Beach, je ne sais pas, mais une huître comme on prend des sushis, c'est-à-dire qu'il va vous conseiller, il va vous dire, ben, vous pouvez prendre une normande de tel endroit, la côte normande de l'ouest, et c'est pas la même que la côte normande de l'est, et pourquoi ? Et donc les huîtres, on doit les consommer en les découvrant, en les aimant et en n'étant pas sur l'idée, on mange des huîtres à Noël. Ça, c'est quelque chose qui doit changer. Donc Angelica Herrmann est ostréicultrice et elle fait partie de ces ostréiculteurs engagés au quotidien dans un métier difficile, mais dans un métier passionné. Et elle se bat avec d'autres justement pour que cette huître, ça ne soit pas n'importe quelle huître.
Oui, bonjour tout le monde. D'abord, merci d'abord à Catherine Floïc de s'être attaquée un sujet aussi vaste, aussi passionnant que l'huître. L'huître, ben, c'est un sujet de passion. Pour être ostréiculteur ou ostréicultrice, il faut être passionné, parce que c'est un métier qui demande effectivement énormément de travail, mais qui procure aussi beaucoup de plaisir en retour, beaucoup de joie. Mais c'est ce comme disait Catherine, c'est un produit qui est une sentinelle qui reflète l'état du milieu. Et ça, c'est très important parce que pour produire pour cultiver une huître, il faut une qualité de l'eau saine, extraordinaire. Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on a beaucoup de mal avec ça parce que les côtes françaises sont très demandées pour plein d'autres usages qui sont très bien aussi, bien sûr, mais pour pouvoir continuer à faire de l'ostréiculture. Il faut cette qualité de l'eau. C'est la première importance. Après, c'est vrai, moi je suis donc ostréicultrice sur le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon a ça de particulier que c'est un bassin naisseur. Mmh. C'est-à-dire c'est un endroit où on a les conditions où l'huître peut se reproduire. Ce n'est pas le cas partout. On a actuellement en France deux bassins naisseurs. C'est bassin Arcachon et Charente-Maritime, Marraine-Oléron. Alors, c'est quoi les conditions? La plus importante des conditions, c'est la température de l'eau, en fait. L'été, il faut qu'elle se réchauffe assez, il faut qu'elle ait entre 21 et 23 degrés pour que l'huître puisse se reproduire. C'est évidemment le cas sur le bassin. Actuellement, nous sommes encore le premier centre naisseur européen. Avec la grande région qui a été créée, on est avec Marraine-Oléron, donc vraiment le plus grand centre mondial pour la reproduction de l'huître. Donc c'est très très important de conserver cette zone-là pour toutes les autres régions, pour l'Europe, pour le monde. Il y a donc des problématiques naturelles, climatiques, mais il y a aussi des problèmes qui sont causés par les huîtres qui viennent des écloseries. Parce que ces huîtres d'écloserie sont des huîtres qui sont, je ne sais pas si tu l'as dit, sont des huîtres stériles, parce que ça a été créé au départ pour que les personnes puissent manger une huître l'été qui n'est pas laiteuse. Au départ, c'était ça. Mais ça a vite basculé vers autre chose, parce qu'on s'est vite rendu compte que cette nouvelle huître, créée artificiellement dans les laboratoires, était une huître qui poussait parce qu'elle était sélectionnée, d'abord, pour pousser plus vite, et deuxièmement, elle était stérile, donc elle ne se reproduisait pas. Nous, nos huîtres, ici, sur le bassin, pendant tous les mois d'été, juin, juillet, août, septembre, elles mettent toute leur énergie dans la reproduction. Donc, pendant ce temps-là, elles ne poussent pas, elles ne grossissent pas. Donc, on perd du temps dans l'élevage. Mais en échange, on gagne quand même le naissin d'huître. Mais par rapport à la productivité, c'est évidemment un point en moins. Donc ces huîtres d'écloserie qui poussent tout le temps, on a une huître marchande déjà en 2 ans, tandis que dans notre bassin, il nous faut 3-4 ans. Ça, c'est vraiment une grande différence. Mais ces huîtres donc, qui sont stériles, qui ne le sont pas, mais ça, si vous lisez le livre, vous allez le découvrir, parce que il y a quand même une problématique aussi qui a été découverte par une jeune femme chercheuse à Caen, qui a découvert que ces huîtres sont presque jusqu'à 50% fertiles. Après, on ne sait pas si elles peuvent se reproduire, mais justement, c'est ça le problème. Ces huîtres-là, qui ont été lâchées dans le milieu sans aucun contrôle, ni sanitaire, ni environnemental, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles vont faire avec nos huîtres naturelles. Et nous, on a quand même ce patrimoine génétique, ces chousses naturelles qui sont là pour se reproduire, qui sont en danger par ces huîtres artificielles des écloseries. C'est pour ça que on a créé il y a quelques années, en fait, c'était l'initiative de notre actuel président, Benoît Le Jubiot, qui était entouré dans le Morbihan d'ostréiculteurs qui se servaient dans ces écloseries et qui voulait se battre contre ça. Et donc, il a un peu appelé tous les centres. On est 7 centres ostricoles en France pour essayer de voir d'autres ostriculteurs qui pensaient comme lui que c'était un danger et qu'il fallait s'associer pour être plus fort par rapport à ce danger. Donc on a créé notre association ostriculteurs traditionnels pour justement se distinguer des autres qui faisaient des huîtres artificielles. Ça, c'était un premier temps, mais actuellement, on a un combat pour essayer d'arriver à un étiquetage pour que vous, consommateurs, vous Vous pouvez, quand vous allez acheter vos huîtres, choisir entre une huître qui est artificielle ou une huître qui est née en mer et qui a été travaillée pendant 3/4 ans par un ostréiculteur qui est un paysan de la mer et pas, je sais pas quoi, un laboratin, etc. Voilà, un peu encore notre trajet de l'association.
Est-ce qu'on peut dire pour le naisseur, justement, qu'est-ce que ça veut dire un bassin naisseur? Ça veut dire que les huîtres, le naissin, il est acheté dans toutes les autres régions de France?
Ben, c'est-à-dire,
comment,
oui.
comment ça se passe?
Il y a d'autres régions comme la Normandie, comme la Bretagne, comme la Méditerranée, où il n'y a pas de reproduction. Donc, ces centres sont obligés soit de se fournir en écloserie ou de l'acheter du naissin naturel dans nos centres. Voilà. Ce qui s'est fait pendant de longues années. C'est vrai, c'est des fois aléatoire parce que nous aussi, on a des problèmes. Des fois, il y en a eu 3 années consécutives où on n'a pas eu du naissin naturel. Aujourd'hui, personne ne sait exactement pourquoi. Effectivement, il y a certainement le climat qui joue parce que c'est très important la température de l'eau, mais ça peut. D'autres facteurs peuvent aussi jouer, comme par exemple des pollutions qui empêchent certains planctons de se développer. Et la petite larve d'huître, si elle n'a pas du nanoplancton pour se nourrir, mais elle ne peut pas se développer, elle ne va pas grossir, elle va avorter, quoi. Donc on ne sait actuellement pas c'est la problématique quand on n'a pas de naissin. Voilà. Après. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme en agriculture. Il y a un nombre d'ostriculteurs qui cherchent un peu la facilité et qui disent une huître qui est là en 2 ans, ça va être plus facile à négocier, à vendre, on va gagner plus vite notre argent, etc. Mais bon, notre métier, ce n'est pas ça l'essentiel de notre métier. Notre métier, c'est d'arriver à élever les huîtres dans des bonnes conditions, avec moins de densité, avec une jolie coquille, avec une facilité d'ouverture, avec un joli mollusque. Tout ça, c'est un travail, ça se travaille tous les jours. Et on est aussi sur le domaine public maritime. On est locataire, donc notre travail, c'est aussi d'entretenir ce domaine public maritime. Et ça fait partie, c'est comme un paysan qui doit entretenir ses champs, ses jardins, etc. Et on le fait, tout ça, ça se fait manuellement, bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais ça fait partie de notre métier.
Ce qu'on pourrait dire, donc, ce que je disais tout à l'heure sur la façon qu'on a de découvrir les huîtres et de les consommer maintenant, c'est qu'en fait, on peut imaginer que les bébés huîtres proviennent tous de chez toi et on les retrouve après en Normandie, en Bretagne Sud, en Bretagne Nord. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces huîtres? On a parlé du terroir comme pour les vins, que certains disent le miroir. Qu'est-ce qui fait que l'huître est différente et qu'est-ce qui fait que les techniques de culture sont les mêmes à peu près pour tous les ostréiculteurs?
Pas forcément. C'est quand même différent. Je pense que dans notre centre et le centre Marraine, on a à peu près les mêmes façons de cultiver les huîtres. C'est-à-dire, c'est en poche, c'est des petites parcelles, c'est des petites entreprises qui sont des entreprises plutôt familiales, etc. Tandis qu'en Normandie, en Bretagne, c'est complètement d'autres. D'autres cultures, c'est des grandes superficies. On travaille beaucoup avec des tracteurs. C'est plus
en
du
Bretagne.
Tout.
En Normandie,
on travaille. Bah, chez nous aussi, sur le bassin de l'autre côté, vers le Cap Ferret, on peut aussi travailler directement. Mais c'est minoritaire, quoi. C'est vraiment, c'est très différent. Mais après, c'est vraiment même sur le bassin. Si vous mangez une huître qui est près de l'île aux oiseaux, c'est une île qui est au milieu du bassin, ou des huîtres qui sont du Bambarguin qui est à la sortie du bassin, ça a un autre goût, c'est complètement différent. Et c'est pareil, vous, si vous mangez une huître maintenant ou si vous la mangez dans 2 mois ou si vous mangez en plein été, elle est chaque fois complètement différente. Mais c'est ça qui est intéressant avec l'huître, c'est pas un goût, c'est pas comme l'huître qui sort donc de ses labos où c'est garanti que l'huître va être pareil. Si vous la mangez en janvier, si vous la mangez en juillet, en décembre, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, Moi, il me semble que c'est important de manger une huître avec des saisons, quoi. Moi, je sais que je l'adore maintenant dans 2 mois parce qu'elle va commencer à être plus grasse, parce que les eaux vont se réchauffer, il y a plus de nourriture, plus de plancton dans l'eau. Donc, en mars-avril, c'est vraiment le meilleur moment pour manger une huître du bassin d'Arcachon. Après, bon, elles vont devenir laiteuses. Là, tout le monde n'aime peut-être pas, mais là, il faut apprendre aussi à la manger différemment. On peut manger des toutes petites huîtres, qui sont des huîtres boudeuses. On appelle ça des boudeuses. Et donc, on les met au frigo un peu avant. Donc, elle est un peu caillée. Donc, le lait est un peu plus dur, moins liquide. Et c'est excellent. C'est très, très bon. Après, bon, c'est vrai, une fois qu'elle a frayé, qu'elle a pondu, elle est un peu maigre. Il faut lui laisser le temps de revenir en chair. Mais après aussi, on n'est peut-être pas obligé de manger tous les jours des huîtres. Il faut aussi savoir attendre qu'elle est de nouveau bien comme il faut, etc. Donc ça, je pense qu'on a perdu aujourd'hui souvent cette façon de manger nos aliments, de se faire plaisir, mais d'attendre qu'elle soit vraiment au bon moment pour la manger. Après, bon, sur le terroir, oui, le terroir, au miroir, c'est complètement différent. Si vous mangez une huître de Normandie ou une huître de Bretagne, une huître c'est complètement différent. Encore une huître de Méditerranée, Alors, des fois, on fait aussi on a des collègues. Donc, moi, j'ai une collègue qui est en Méditerranée. Donc, en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Les eaux sont très riches. Donc, l'huître, elle pousse beaucoup plus vite que, par exemple, dans le bassin. Donc, on fait des échanges. On leur amène des boudeuses qui ne veulent plus pousser chez nous, qui sont toutes petites. Et là-bas, ils ont la chance, en un an, elles repoussent. Donc, ça fait une huître entre les deux mers, quoi, en fait. Donc, ça donne un peu un goût d'ici et un goût d'ailleurs. Donc, c'est sympa aussi. Enfin,
Le propos du livre, comme je vous ai dit, c'était une enquête avec une rencontre avec ces différentes façons d'aborder l'huître et de la travailler, de vous la faire découvrir. Et à la fin, c'était évidemment, après ce que je vous ai expliqué sur mon intérêt sur la création, qu'il fallait finir par la dégustation. Et j'ai rencontré 6 grands cuisiniers qui ont parlé de la façon qu'ils avaient, eux, de manger des huîtres, de les apprécier et qui donnent des recettes. Et ce que disait Angelica, c'est que moi, j'ai découvert ça cet été parce que mon mari, de tradition bretonne, l'été, il ne mange pas d'huîtres. Et moi, je trouvais ça dommage. J'adore et j'en aurais mangé tout le temps. Et j'ai trouvé des huîtres un petit peu grosses. Mmh. On les a passées à la plancha, à la grillée ou même à la poêle. C'est absolument excellent. Oui. Donc, il faut savoir que... On peut se poser des questions. On n'est pas obligé de manger bêtement 12 huîtres qu'on achète dans un supermarché ou chez son poissonnier. Il faut désirer les choses, les aimer, puis leur donner leur qualité, qui sont la suite logique de ce que Angelica disait sur la façon dont elles ont été travaillées avant. Ce n'est pas les fraises qui arrivent de serre d'Espagne qui vont vous donner du plaisir. C'est les fraises que vous achèterez au marché. Les premières fraises qui viennent de chez un maraîcher qui les a aimées, sélectionnées et choisies.